en famille avec Zour sur Radio Orient.
Bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Orient. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore trop souvent gardé sous silence dans nos familles et notre communauté, la santé mentale. Longtemps considéré comme un sujet tabou, associé à la honte et à la faiblesse, la santé mentale est pourtant au cœur de notre équilibre, de nos relations, de notre bien-être au quotidien. Pour en parler avec sensibilité, respect et expertise, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dont le travail se complète et se répond. Nawal Derral, psychologue, psychothérapeute, engagé dans une approche à la fois rigoureuse et profondément humaine, et Nasser, accompagnant intuitif et à l'écoute des blessures silencieuses et des parcours de vie souvent invisibles. Ensemble, ils œuvrent pour rendre la démarche thérapeutique plus accessible, plus naturelle, notamment au sein des communautés maghrébines et musulmanes. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Orient.
Merci pour l'invitation et on est ravis d'être là.
Oui, merci. Bonjour à tous.
Tout d'abord, pouvez-vous chacun vous présenter à nos auditeurs? On commence par Nawal.
Alors, je suis psychologue clinicienne psychothérapeute. Je fais de la thérapie à visée analytique et de la TCC, thérapie cognitivo-comportementaliste. Alors, je reçois régulièrement soit des enfants, des adolescents ou des couples ou des adultes qui viennent avec leur propre demande, qui est une problématique qui est souvent très explicite, mais qui en cache aussi d'autres. Et l'idée, c'est de trouver la solution, l'accompagnement le plus idoine pour les accompagner au mieux.
Nasser ?
Nasser, je suis thérapeute holistique. J'accompagne les personnes sur le volet psychologique, émotionnel et énergétique dans une démarche intégrative et j'ai le plaisir de collaborer avec différents acteurs de la santé mentale, dont des psychologues, comme ma collaboration aujourd'hui avec Nawal.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble, Nawal ?
C'est lors d'une rencontre professionnelle d'un network, on s'est rencontrés, puis on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une approche qui se complétait. Et nos expériences ont fait qu'on a réalisé qu'on pouvait faire d'une force, en fait, nos deux approches qui, au premier abord, peuvent paraître différentes et diamétralement opposées. Et alors qu'en fait, au final, pouvaient vraiment être utiles dans l'accompagnement de sujets avec des problématiques bien précises. À titre d'exemple, moi, il m'est arrivé justement d'envoyer des patients voir Nasser parce qu'il y avait un certain blocage.
Exact. Et moi, j'ajouterais aussi qu'on a eu l'occasion d'expérimenter vraiment notre collaboration à travers différents patients, comme disait Nawal, et on s'est rendu compte qu'il y avait une convergence et une aide qu'on s'apportait l'un l'autre dans l'accompagnement des patients. Et c'est pour ça qu'on a consolidé notre collaboration aujourd'hui.
En quoi vos approches sont différentes mais complémentaires ?
Alors, moi, je suis psychologue clinicienne, donc j'ai beaucoup m'appuyé sur le discours, sur des apports qui sont, on va dire, communément admis dans le sérail scientifique, académique, universitaire, donc avec beaucoup de publications américaines, parce que les Américains sont très à l'avance hein, sur pas mal d'études, donc, dont les thérapies cognitivo-comportementalistes. Et puis, donc j'ai une approche qui est vraiment dans le langage, dans le comportement. Alors que Nasser, lui, va être justement dans quelque chose d'assez complémentaire.
Moi, je m'appuie sur des éléments qui sont moins proches de la psychologie clinicienne, mais qui sont beaucoup plus dans les approches à la fois orientales, comme la médecine chinoise ou ayurvédique, mais également sur des sujets qui sont beaucoup plus intuitifs. Et donc, de voir finalement comment les éléments qui sont refoulés dans notre inconscient peuvent s'imprimer dans notre champ émotionnel et notre champ énergétique. C'est ce que, par exemple, des techniques techniques comme l'hypnose essaient de faire ressortir, mais moi j'apporte une dimension encore plus intuitive pour aller chercher ça au niveau de la psyché et de l'émotionnel.
Quand on parle de la maladie mentale, généralement on prend mal, c'est un tabou, on ne parle même pas parce que c'est un tabou, surtout dans notre communauté. Quand quelqu'un a un problème mental, pour nous on dit que non, on a mâché hmaq bach n'mâché n'chauffe un psychologue. Donc comment vous arrivez à changer ces idées et à casser ces tabous pour parler de la maladie mentale aux patients?
Déjà en étant ici avec vous, parce que mine de rien, une émission comme ça, ça permet de vulgariser des concepts et un peu de rendre les choses un peu plus lisibles pour notre communauté, ce qui est très important. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous, on arrive à un moment où on n'est pas vraiment sur le titre préventif. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, c'est que la situation est déjà installée et qu'on a tout essayé. Et puis on se dit, ben, peut-être qu'une ruqya, ça ne suffit pas. Peut-être qu'en fait, mon enfant n'est pas mskoun. Peut-être que ce n'est pas l'in et que peut-être qu'il y a autre chose. Et donc, on arrive à ce moment-là. Alors, toutes nos approches traditionnelles et culturelles, moi, je trouve qu'elles sont importantes parce qu'elles ont du sens. Et c'est important de les intégrer, donc il n'y a pas à les renier. Mais les approches peuvent être complémentaires et simultanées. Et c'est ça qu'il faut savoir entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte que l'humain est fait d'un corps et d'une psyché. C'est ce qu'on appelle, on peut appeler vulgairement le mental, en fait. Et les deux sont liés. Et on le voit très bien dans des situations très simples. Vous voyez les effets nocebo dans les médicaments, par exemple. On n'en parle pas assez, mais pendant la Covid, on en a parlé. Mais vous voyez, là, on voit vraiment que selon l'image qu'on peut avoir d'un médicament, il va vous créer, en fait, donc l'image psychique va créer, en fait, des effets sur le corps négatif. Ouais. Donc, voilà, c'est grâce à des choses comme ça, on réalise qu'en fait, il y a un vrai lien.
Oui, Nasser.
Alors, effectivement, il y a aussi tout un volet de l'acceptation du mal-être. Moi, je parlerai d'abord de mal-être avant de parler de réellement maladie mentale. Certaines personnes peuvent souffrir d'anxiété, notamment dans nos...
Comment on peut traduire le mal-être en arabe? واحد حس راسو يعني ما مزيانش
ما كيحسش براسو مزيان كيحس براسو شي حاجه مضيقاه ولكن ما عرفش شنو هي
دائما مهموم داي برون با لو بليزير في اي حاجه يعملها في حياته
كتقدر تكون فوالا اون في يعني سان بليزير اوني ان بو دون ليكزيكوسيون دو لا في يعني حنا غير غاديين الحياه جرانا كوم اون دي
مي بالنسبه لهاد الناس سي نورمال دو فيفر كوم سا مي اي ساف با كي سوفرا
وي القلقه
دونك جوستمون هاد لو بوين هو اللي مهم سي difficulté qu'elle connaît, l'acceptation de le mal-être comme étant quelque chose qui n'est pas normal et de faire une démarche pour se rapprocher de personnes dans l'accompagnement comme Nawal ou moi. Donc, elle dit, il y a des problèmes qui sont les gens avant qu'ils arrivent chez nous.
D'accord. Alors, quelles idées reçues ou blocages entendez-vous souvent de la part des personnes que vous accompagnez?
Alors, régulièrement, les gens sont un peu enfermés dans l'image culturelle de ce que doit être un homme, de ce que doit être une femme, de ce que doit être aussi un enfant et ce à quoi il doit répondre. Et souvent, c'est ces représentations-là qui vont un peu, justement, qu'il va falloir un peu bouger pour dire qu'avant tout, on est un être humain. Homme ou femme, fille ou garçon, avec justement des sentiments, des émotions qui vont justement générer des comportements. Et c'est d'essayer justement de faire émerger cette prise de conscience. Donc souvent, c'est ces représentations-là sur lesquelles on retombe.
Ouais. Moi, j'accompagne beaucoup sur le sujet de la fatigue émotionnelle, justement le wahed qui connaît rien.
Tu parlais du burn-out.
Alors, avant d'arriver au burn-out, déjà, tu as un sens de l'irhaq, l'atifi, ou la fatigue émotionnelle, souvent, elle vient d'une difficulté des personnes en général, mais surtout de notre communauté, à poser des limites. Et là, je parle vraiment de poser des limites par rapport à la famille, au travail, dans la relation intime, etc. Donc, on a grandi dans une culture où on prend beaucoup sur nous dans le etc. ou qui je travaille beaucoup sur cette thématique là justement.
Alors d'où vient cette peur de demander de l'aide? Est-ce qu'une question de culture ou bien de génération?
Les deux. Je pense que les deux sont liés. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Les deux, je dirais même, il y a d'autres ingrédients.
Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi les autres ingrédients, Nasser?
Pour moi, je pense que l'humain, de manière générale, n'a pas été entraîné et élevé dans nos sociétés, de manière générale, je ne parle pas uniquement de la culture maghrébo-musulmane, à avoir un réflexe d'introspection. Donc, Donc, pour identifier qu'on est dans une situation de mal-être qui n'est pas simplement normale et qui fait, voilà, par exemple, j'ai beaucoup travaillé cette semaine, donc je me sens un peu fatigué, ça c'est normal. Mais la répétition de ce schéma dans le temps, elle n'est pas normale. Et donc, pour avoir ce recul par rapport à soi, c'est déjà un ingrédient qui rajoute de la complexité. L'acceptation de se dire, peut-être, il faut que je fasse une démarche. Peut-être que certaines personnes vont me juger. Parce qu'on peut en parler à son partenaire, on peut en parler à sa famille. Et du coup, il y a un peu cette peur.
On a peur des jugements des autres.
Voilà, il y a cette peur du jugement, du regard de l'autre sur soi. Donc, il y a à la fois le regard de soi sur soi-même, est-ce que je suis en mal-être ou pas, et que vont penser les autres de moi.
Et je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non, la femme de notre communauté, elle pense à tout le monde sauf à elle.
Oui,
jusqu'à
vrai.
Ce qu'elle arrive à un point où vraiment elle a besoin d'être aidée, mais même là, elle ne pense pas à aller chercher de l'aide d'un professionnel.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient une charge mentale énorme, mais qui le font à un moment où c'est le corps qui parle, c'est-à-dire des femmes.
Quand
qui
on
vont...
parle de la charge mentale, pour expliquer aux auditeurs, c'est penser à tout, penser aux enfants, aux courses, au ménage, à faire à manger, et travailler peut-être en plus à l'extérieur.
Oui, mais complètement. En fait, on vous sollicite, c'est être toujours présente pour les autres et être à sa place quand on vous le demande.
Sachant que même pour les femmes au foyer, généralement on dit elles ne travaillent pas, mais leur travail, c'est un travail H24, hein. Quand on est femme au foyer, Nasser.
Ouais. Alors moi, je suis un fervent défenseur de la cause féminine.
C'est l'homme entre nous, non,
c'est
voilà.
Entre
donc
nous.
On va écouter
Exactement.
Son avis.
C'est ça. Ma mère a divorcé deux fois, donc elle a eu à charge deux enfants qu'elle a dû prendre toute seule, à la fois à la maison et au travail. Donc voilà, je suis très sensible à cette charge mentale, effectivement, du travail de la femme à la maison et du travail en dehors. Pour moi, il y a aussi un aspect d'injonction que la société nous donne aux femmes, de dire khassak tahmadallah bach makan, yani qui makan la situation, il faut dire alhamdoulillah, et c'est hyper positif d'être dans la gratitude.
Yani نقطة الضعف هي الدين مع ان الدين الى penser plus à cette femme
Exactement.
Et à son confort.
هو الدين فكر في لا فام باش وفكر فينا كاملين باش نكونوا في الحمد ونشوفوا كيفاش نحسنوا الوضعية ديالنا ولكن وقع واحد l'interprétation شويه
qui
arrange peut-être un peu les hommes
qui arrange certaines personnes.
C'est ça.
Je vais pas dire les
on
hommes
on accuse pas les hommes,
ne pas être attaqué.
Non.
En tout cas, on a parlé de la charge mentale, il y a aussi des douleurs invisibles mais réelles comme l'anxiété, rapport au corps, conflits familiaux et identitaires, des conflits identitaires, peut-être que remarquez ça tous les jours, je pense, dans votre pratique, Nawal.
Oui, tout à fait. Souvent, les gens se retrouvent à cheval entre la loyauté qui est due justement à leur culture, à notre culture maghrébine, maghrébo-musulmane, et puis le devoir de voir aussi être obligé d'assimiler aussi et de s'intégrer dans une société. Et de trouver sa place en tant que personne, individu, en tant que citoyen. Et c'est vrai que les deux, de temps en temps, essayer d'être dans le compromis, ça peut être très conflictuel et difficile. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'accompagner alors plus de jeunes femmes. C'est vrai que les hommes sont plutôt minoritaires, mais qui justement sont dans ce souci identitaire, mais qui se posent souvent. Alors moi, elles viennent me consulter quand elles doivent se marier ou vivre avec quelqu'un. À ce moment-là, justement, il y a quelque chose comme ça qui se manifeste, qui vient s'incarner dans la relation amoureuse, où elles se posent la question de savoir si elles doivent aller du côté occidental ou arabo-musulman. Et c'est très intéressant parce que c'est là où les choses se disent, mais pas suffisamment en amont.
Donc, on parle bien sûr de ce sujet très complexe. Y a-t-il un lien fort entre transmission familiale et silence et mal-être aujourd'hui, Nasser? Je vous appelle Nasser parce que vous ne m'avez pas donné votre nom.
Le Mnéaï.
Le Mnéaï, marhaba, c'est le Mnéaï.
Concernant le poids des traditions et de la famille dans, on va dire, dans le cheminement personnel, évidemment, il est présent. Pour moi, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Au-delà de notre culture, tout le monde porte le poids de sa famille et de ses traditions. Alors, effectivement, nos sociétés, initialement, sont des sociétés plutôt tribales dans le passé et qui ont une structure familiale plutôt qu'individualiste. Donc, ça rajoute une certaine complexité à un certain point. Mais la réelle difficulté, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on accepte de faire la part des choses et de voir ce qui nous appartient, de ce qui appartient à nos traditions, à notre famille, et ce qu'on accepte de garder avec nous, par exemple les traditions de l'Eid qui sont super pour les enfants, etc., de certaines traditions qui vont être beaucoup plus patriarcales et qui vont peut-être gêner la femme dans l'exercice de sa vie de citoyenne, alors qu'elle n'a pas forcément besoin de prendre ça sur elle.
Nawal, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ?
Oui. En fait, qu'on le veuille ou non, on est traversé par l'inconscient collectif de nos aïeux. Et on porte tous en nous ce bagage culturel qu'il faut absolument ne pas nier. Je pense que, au contraire.
Qui est une richesse d'ailleurs.
Exactement. Et je pense que c'est très important en fait, d'être plus au fait de son histoire et de son roman familial. Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une assise qu'il faut pour justement pouvoir s'étendre dans un endroit et vivre dans un endroit et créer ses propres repères.
Oui, Nasser.
J'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai accompagné justement une jeune fille qui avait du mal à verbaliser auprès de ses amis et de son mari, par exemple, en fait, ses propres limites. Voilà, de simplement vraiment des choses très simples. De dire ça ne plaît pas, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de voyager là, etc. Et en fait, dans l'accompagnement que j'ai fait avec elle, on s'est rendu compte que les femmes de sa famille, donc sa mère et sa grand-mère, n'arrivaient pas à verbaliser les choses. Et elle a pris sur elle, en fait, de manière inconsciente, cette incapacité à verbaliser sa réalité, ses limites. Et donc, c'est des choses qui viennent aussi qui deviennent de l'ordre de l'invisible pour nous, de l'inconscient. Où il faut réussir à identifier ça et faire la part des choses.
Aujourd'hui, et je pense qu'on a eu plein d'exemples à l'antenne en direct, l'estédame entre les parents et leurs enfants, le sera intergénérationnel. Peut-être, nous, les parents, on a l'impression qu'on a toujours raison et c'est les enfants qui ont tort. Or, des fois, les enfants ont raison. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer les mentalités et je pense être accompagné d'un professionnel et demander de l'aide, c'est très important. Mais la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi ces gens ne font pas ce pas et ils vont chercher un professionnel pour en parler? Est-ce que c'est une question de blocage de langue? Est-ce que parce que ça coûte cher? Est-ce que ils sont mal informés et ce sujet n'est pas trop médiatisé?
Effectivement, la prise en charge par des professionnels de santé, elle représente un certain coût. Moi, je préfère parler d'investissement parce que c'est un accompagnement qui se fait dans une durée limitée. Nawal ou moi-même, on accompagne sur des cadres de thérapie brève, donc qui dépassent rarement plus que 10 séances. Et pour moi, il y a un sujet aussi de remettre en question son rôle, par exemple sur l'exemple que vous avez donné, de remettre son rôle en tant que parent. Est-ce que je suis un bon parent ou un mauvais parent? En fait, on tombe vite dans la dualité du bien et du mal, alors que c'est pas le sujet. En fait, être un bon parent, entre guillemets, c'est pas d'empêcher son enfant de faire des choses qu'on considère comme étant mauvaises et de le pousser à faire des choses bonnes, c'est d'accompagner son enfant à avoir les ressources pour lui-même identifier ce qui est bon ou mal, de lui mettre un cadre dans lequel il peut évoluer et de lui donner les ressources pour s'en sortir dans la vie quand il est face à des situations qui sont complexes. Donc, avoir ce recul-là et se détacher de « moi, je veux que mon enfant réagisse comme ça ou fasse ça »,
Je pense avec tous les changements qu'on vit aujourd'hui, avec cette révolution technologique, les réseaux sociaux et tout, donc on n'est pas seul à éduquer nos enfants, je pense, Nawal.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir et c'est de la guidance parentale que je fais, parce qu'il y a des réajustements à faire, mais dès le plus jeune âge aussi, hein, des parents qui ont des problèmes.
Lors d'une interview avec un invité, un coach aux Émirats, il m'a parlé d'un exemple au Malaisie. Ils font une formation pour préparer les couples à leur nouvelle vie. Je trouve ça génial.
Mais une nouvelle vie conjugale ou maritale?
Oui, une nouvelle vie.
Mais ça aussi. Mais vous savez, moi, dans mon monde, en fait, je rêverais que tout le monde puisse faire quelques jours, quelques thérapies, mais rien que pour le jihad al-nafs. Tout à l'heure, on parlait de religion. Je trouve qu'il y a un très beau concept en islam, c'est celui du jihad al-nafs. Et moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de séparable de la psychologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans cette démarche spirituelle et religieuse, il est important d'être au plus clair, en fait, avec soi-même. Et c'est vrai que la psychologie, la thérapie, ce que Nasser et moi proposons, ce sont justement des outils qui permettent d'être dans cette introspection et d'avancer avec soi-même.
Donc, quand on parle de la spiritualité et de la foi en thérapie, je pense que c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que parler à un professionnel de la santé, c'est comme aller chez un autre spécialiste, soit un diabétologue ou un cardiologue. Mais malheureusement, cette idée, elle est loin aujourd'hui dans l'approche de nos auditeurs.
Oui, elle est loin parce que je pense que... c'est pas culturellement admis dans notre communauté. Et puis, nous, on a tous grandi, qu'on le veuille ou non, avec un monde invisible. C'est-à-dire que dans notre communauté, on sait qu'il y a un monde invisible qui existe avec ses propres règles. Et donc, dès qu'on est dans ces blessures invisibles, comme vous le disiez très justement en début d'émission, on a tendance à aller chercher ce qui nous est le plus familier. Et ce qui nous est le plus familier, c'est d'aller chercher justement sur l'aspect religieux ou traditionnel de ce que faisaient les grands-parents ou les parents. Et donc, on passe à côté d'un certain prisme qui, lui, aujourd'hui, s'avère porter ses fruits. Et ces accompagnements, justement, que nous faisons... donne des résultats, en fait, des choses concrètes. C'est-à-dire que vraiment, on passe d'un mal-être à un bien-être. Il y a une démarche bienveillante et d'être bienveillant avec soi-même aussi.
Alors, comment parler de cette thérapie, Nasser, à ses parents ou à ses proches sans crainte d'être jugé?
Alors, je pense déjà la démarche thérapeutique, c'est une démarche qui est intime. On n'est pas obligé d'en parler, mais si on souhaite en parler, il faut vraiment l'intégrer comme étant une démarche qui est personnelle, parce que souvent, en fait, les proches ont peur de l'impact de la thérapie sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les parents ou l'époux ou l'épouse peuvent se dire « Comment est-ce que tu vas changer après cette thérapie ?» Et donc, il faut aussi comprendre que les gens ont leur propre peur et en fait, on n'a pas besoin de prendre leur peur. Souvent, en fait, ce jugement extérieur vient de la peur de la personne qui nous juge. Et donc, il faut prendre ce recul et le thérapeute, normalement, accompagne aussi pour prendre et conserver cette distance.
Alors, quel premier pas concret pouvez-vous conseiller à nos auditeurs, Nawal ?
En fonction du besoin qui émerge en eux, c'est de prendre contact, d'appeler justement un thérapeute, d'avoir un premier échange téléphonique. Je trouve que l'échange téléphonique est important. Moi, je sais que je passe pas par Doctolib. Je préfère que les gens m'appellent et me contactent pour qu'il y ait un premier échange. Et de discuter de la situation. En fait, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est dans une première prise de contact où les choses vont se créer, la demande va être faite. Et en fonction de ce qu'on perçoit en tant qu'individu, on se lance ou pas. Parce que l'alliance thérapeutique, elle est très importante. Ça va être quand même, tu es d'accord avec moi, c'est à peu près quand même 50-60% du travail. L'alliance thérapeutique est très importante.
Anna Sal.
Moi, je donnerais deux choses, un conseil et un exemple. Alors, mon conseil à tous les auditeurs, c'est avant d'entamer une quelconque démarche, prenez un moment avec vous-même pour vous poser les bonnes questions et faire un point en fait sur vos ressentis. Donc, vraiment faire le point de quelles sont les émotions qui sont dominantes chez vous aujourd'hui. Est-ce que c'est des émotions qui vous conviennent et que vous souhaitez garder sur le long terme? Et est-ce que c'est des émotions que vous arrivez à gérer? Voilà. Donc, par exemple, si on dit, voilà, aujourd'hui, je me sens triste. Ça fait 6 mois que je me sens triste depuis le deuil de telle personne et j'ai du mal à passer à un autre état émotionnel. Si j'observe ça chez moi et que je me dis, c'est pas un état que j'ai envie de conserver sur le long terme, alors il faut sauter le pas. Et c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment le faire pour contacter un professionnel. Et j'aimerais donner juste un autre exemple sur l'accompagnement en fait que Nawal et moi on fait auprès des fratries de couples divorcés. Donc en fait, on a reçu énormément de personnes qui sont dans le cadre d'un divorce et on s'est rendu compte dans nos accompagnements que on prenait pas en considération les enfants. Et les enfants sont les premières victimes du divorce.
Bien sûr.
Et en fait, on s'est rendu compte que souvent c'était des personnes qui sont dans le système de divorce, comme des avocats, etc., qui nous les adressaient parce qu'eux perçoivent un mal-être et ils poussent les parents finalement à dire ben, « il faut vous faire accompagner ». Donc des fois aussi, s'entourer de personnes bienveillantes pour nous pousser aussi à faire les démarches.
Sachant qu'on peut être un mauvais couple, mais des bons parents.
Exactement.
Ah, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on divorce qu'on démissionne de son rôle de père ou de mère.
Donc pour les auditeurs qui nous écoutent et ils veulent vous contacter, ils peuvent vous contacter comment ?
Par mail ou par téléphone. Ouais. Nawal Dergal, NAOUALDERGHAL @gmail.com.
Et Nasser?
Nasser Lmniei, NACER.LAMNIAI @gmail.com ou au 06 95 21 34 11.
Merci beaucoup Nawal Dergal, merci Nasser Lmniei pour votre présence, vos paroles vraies et votre engagement à créer des espaces d'écoute adaptés à notre réalité culturelle. Que parler n'est pas une faiblesse, c'est très important, c'est une force, que demander de l'aide, c'est souvent le début d'un chemin vers soi. À vous qui nous écoutez, retenez ceci, il n'y a pas de honte à ne pas aller bien. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'être écouté. Si cette émission vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. La parole peut libérer bien des silences. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Orion. Merci.
Merci.
En famille, avec Zour sur Radio Orion.